Je précise que je n'ai pas à calibrer ma présentation pour un niveau d'étudiant de troisième cycle de musicologie. C'est plutôt une sorte de présentation générale de qu'est-ce qu'on peut savoir sur le tempo et le rythme dans les périodes, disons, baroques au sens large, avec éventuellement des incursions avant, voire un petit peu après. Et ne pensez pas que je vais vous donner des réponses à toutes vos questions pour savoir à quelle vitesse on joue l'allegro et à quelle vitesse on joue l'aria
Des
des
Goldberg.
variations Goldberg. Je ne suis pas sûr que qui que ce soit ait des réponses définitives là-dessus. Mais pour répondre à la question de Janet qui me semble importante, je vais essayer de vous dire ce que je sais et ce que j'ai pu rassembler comme information objective, éventuellement incomplète ou même certainement très incomplète, mais en tout cas pas influencée par la mode et le besoin de vendre ses disques sur Internet avec beaucoup de likes sur les réseaux sociaux et pour ça de jouer de façon très vite, parce que c'est sûr que le marketing est de plus en plus a une influence sur la façon de jouer des musiciens. Et ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse et ce n'est pas ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Donc, effectivement, on joue de plus en plus vite, avec des nuances de plus en plus extrêmes, etc. Et ce n'est pas du tout évident que ça soit forcément ça qui soit documenté. Donc, je vais essayer de vous montrer des choses qui sont plus ou moins documentées. Je me suis basé là-dessus sur ce bouquin-là. Je ne sais pas si vous arrivez à le voir parce qu'il y a du soleil chez moi. Voilà. Est-ce que vous le voyez à l'endroit ou
Oui,
à l'envers?
à l'endroit.
À l'endroit, très bien. Moi, je le vois à l'envers sur mon écran. Donc, voilà, c'est un gros pavé qui s'appelle Das Tempo in der Musik von Barock und Vorklassik de Klaus Milling. C'est un gros pavé de 450 pages, très, très, très documenté. C'est une thèse, en fait, qui rassemble, ça a quelques années, ça a une dizaine d'années maintenant, 2003, un peu plus même. Qui rassemble l'ensemble des sources et qui analyse l'ensemble des sources sur le tempo dans cette période, disons, baroque au sens large. Et évidemment, c'est un ouvrage de 450 pages, donc je ne vais pas le résumer en une heure et quelques. Il y a beaucoup trop d'informations là-dessus. Donc, si vous permettez, je vais faire comme l'autre fois, je vais vous partager un document que j'ai préparé. Et surtout, comme l'autre fois, si je vais trop vite ou que je dis des choses qui ne sont pas claires, vous n'hésitez pas à intervenir et à m'interrompre. Ayez en tête que quand je partage l'écran, je ne vous vois plus. Donc, je ne sais plus qui parle, je ne sais pas. Donc, si quelqu'un lève la main, je ne le saurais pas, etc. Donc, Ah, pardon, John, il faut m'autoriser à partager l'écran. Je ne t'entends pas. Non, pas encore.
Là, j'ai
Voilà.
activé, hein.
Voilà.
Bien.
Ce document, je l'enverrai à John un peu plus tard, mais je l'ai aussi déjà mis dans le chat du Zoom. Et donc, si vous voulez, vous pouvez déjà le télécharger.
Parfait, super.
Je précise, comme je fais toujours, que là, aujourd'hui, je vais vous affirmer des choses que je considère comme toutes documentées, mais je ne vais pas forcément toujours vous citer dans quelle source je l'ai trouvée. Et je vous engage, comme toujours aussi, à aller voir les sources dont je vous parle et à les lire vous-même et à les comprendre vous-même. Il y a quelques liens à la fin de documents qui sont disponibles en ligne sur IMSLP. Donc, vous pouvez aller les voir et vérifier tout ce que je vous aurais dit, le contester et dire « Mais non, pas du tout, la filard ne dit pas ça, elle dit tout à fait le contraire. » Et n'hésitez pas à le faire. À propos… Ah, pour avoir des points en plus à l'interro tout à l'heure, qui a inscrit ses instruments sur un hippo depuis la dernière fois? Tout le monde, j'espère. Voilà, vous avez droit à 2 points de plus à l'interro si vous avez inscrit vos instruments sur un hippo. Et vous avez droit à 3 points de plus à l'interro si vous avez fait inscrire vos copains.
De la pub auprès de plein de clarinettistes, mais
Voilà. Voilà, il faut le faire, c'est une question de solidarité. Bien, alors, j'ai organisé ma présentation aujourd'hui en évoquant un certain nombre de concepts, de notions qu'on va essayer d'éclaircir voilà, et je pense que ça va nous permettre d'avancer peu à peu. Je précise une chose, c'est qu'on parle là de la musique avant l'époque du métronome. Et je considère, à tort ou à raison, mais je considère que quand un compositeur a donné une indication métronomique pour sa musique, on peut lui faire confiance, ça doit être la bonne. Il y a probablement une marge d'erreur, et quand on en écoute des enregistrements, je ne sais pas, de Poulenc au début du XXe siècle, il ne joue pas forcément exactement à l'indication métronomique qu'il a indiquée, mais c'est généralement à peu près ça. Donc, en revanche, méfiance, quand on a une partition qui n'est pas très, très respectueuse de l'original, il peut y avoir des indications métronomiques qui ont été ajoutées par l'éditeur, et celles-là, dans ces cas-là, elles ne sont pas forcément fiables, parce que l'éditeur, il n'a pas forcément consulté le bouquin de Klaus Milling avant de mettre ces indications-là. Alors, le premier mot que je voulais évoquer, c'est la notion de pulsation. La notion de pulsation, on sait tous ce que c'est un battement régulier qui est présent dans une grande partie de toutes les musiques du monde, pas dans toutes les musiques du monde, hein, il y a beaucoup de musiques, de préludes libres, dans un alap en Inde, il n'y a pas de pulsation, dans un prélude non mesuré dans Louis Couperin, il n'y a pas de pulsation, enfin, il y a des tas de musiques qui n'ont pas de pulsation, mais il y a beaucoup de musiques qui ont une pulsation, et cette pulsation, elle peut être uniforme pendant toute la pièce qu'on joue, ou elle peut varier, c'est-à-dire dans une pièce, il peut y avoir une pulsation, et puis ça change, ça va à une deuxième, on passe de deux temps à trois temps, et puis on revient à deux temps, il peut y avoir une certaine variation, mais en tout cas, la présence dans beaucoup de musiques, et c'est ça qui va nous intéresser. Une autre notion qui est voisine de la notion de pulsation, c'est la notion de tactus. Ce tactus, c'est la notion de pulsation commune qui était utilisée par les chantres des églises à partir du Moyen-Âge. Et tactus, ça veut dire le toucher. Et la technique employée, c'est que chaque chantre mettait sa main sur l'épaule du chantre qui était à sa droite et battait sur l'épaule la pulsation. Donc, celui qui était au fond, le dernier de la chaîne, indiquait la pulsation à toute la chaîne qui devait avoir la même pulsation pour chanter, ce qui était à l'époque le plein chant, puis ensuite la musique figurée et la polyphonie. Mais donc, l'idée centrale, c'est que quand on fait de la musique à plusieurs, il faut avoir la même pulsation. Ça paraît être une lapalissade ce que je dis, mais finalement dans la réalité c'est pas toujours aussi évident que ça. Et ce qui est intéressant avec le tactus, c'est que on sent une pulsation sur son épaule et on la transmet à quelqu'un d'autre, et en permanence on vérifie. Donc on a cette notion de feedback, c'est-à-dire avoir la même pulsation, ça veut dire toujours vérifier par rapport aux autres qui sont en train de jouer ou de chanter, qu'on a la même pulsation, et ne jamais rester dans son coin parce qu'on a l'impression qu'on a la bonne mesure. Une idée un petit peu qui a prévalu pendant très très longtemps sur le plein chant, c'est qu'il y avait une vitesse du plein chant. On ne savait pas forcément très bien ce qu'elle était, mais elle avait une certaine forme d'universalité, et le plein chant se serait chanté toujours à la même vitesse. Cette idée est depuis quelques décennies maintenant complètement remise en cause, parce qu'il y a des nombreuses sources de différentes époques qui montrent que le tempo du plein chant pouvait être extrêmement variable. Et il y en a une qui est assez rigolote dans l'antiphonaire du diocèse d'Auxerre, que je vais vous lire, parce que le début en tout cas, parce que je la trouve sympa à lire. La voici. Voilà. Donc dans le plein chant, on y prononce dans une minute 48 notes carrées, ce qui veut dire que déjà dans cette source du XVIIe siècle, on mesure le tempo en nombre de notes par minute, Donc, on y prononce dans une, c'est-à-dire exactement la même chose que la mesure du temps du métronome. Quand on dit qu'on joue à 60, ça veut dire 60 battements par minute. Donc, on y prononce dans une minute 48 notes carrées aux messes des grandes fêtes, 60 aux réponses solennelles et aux matines de Pâques et de la Pentecôte, 72 aux messes semi-solennelles et à l'offertoire des dimanches et double majeur, 90 aux messes des dimanches et double majeur et à l'offertoire des doubles mineurs et demi-doubles. C'est-à-dire qu'il y avait toute une classification extrêmement complexe des éléments de la liturgie, et si vous le lisez jusqu'au bout, et 40 seulement à tout ce que chantent les enfants de chœur, soit dans les grandes fêtes, soit aux trois jours avant Pâques, soit aux messes de station, aux répons. Et donc, selon les parties de la messe, selon les périodes de l'année, selon les fêtes et selon le texte qu'on chantait, le tempo variait de 40 à 120, c'est-à-dire trois fois plus vite. Donc, ça donne l'idée que le plein chant, contrairement à ce qu'on imagine, n'a pas du tout un tempo homogène, même à l'intérieur du même office. Donc, ça remet en cause une sorte d'idée préconçue comme ça et de référence que y aurait la référence au plein chant pourrait nous donner des réponses parce que le plein chant est lui-même extrêmement variable. Maintenant, vous voyez que j'ai écrit la battue à deux temps inégaux. Un peu plus tard et à différentes époques, on a commencé à battre la mesure avec la main pour le plein chant. Et comme il y a beaucoup de choses ternaires dans le plein chant, on utilisait ce qu'on appelait une battue à deux temps inégaux, c'est-à-dire 1, 2, 1, 2, 1, que nous on appellerait 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, et pas du tout 1, 2, 3, 1, 2, 3, avec cette idée qu'on a une alternance essentielle de en bas, en haut, en bas, en haut. 1, 2, 1, 2, 1. Cette idée-là va subsister pendant assez longtemps et je vais y revenir. Maintenant, un petit mot qui va répondre à une partie des questions que certains ont soulevées. Pendant tout le Moyen-Âge, il existait une notation du rythme sur laquelle je ne vais pas m'étendre aujourd'hui en détail, qui s'appelle la notation mensurale, qui est une notation qui définit des proportions entre les tempi et donc une unité de temps était divisée en deux ou en trois et chacune des divisions était à son tour divisée en deux ou en trois et donc on pouvait avoir une mesure à trois temps ternaires que nous on appellerait 9-2, 9-4, 9-8, c'est ce que vous voyez ici, c'est le tempus perfectum prolatio, donc subdivision majeure, donc trois unités divisées en trois, et puis il y avait trois unités divisées en deux, deux unités divisées en trois et deux unités divisées en deux, sachant que tout ce qui est ternaire est parfait et tout ce qui est binaire est imparfait ou mineur. Et il y avait des proportions exactes avec des valeurs, des changements de tempo qui pouvaient se déduire automatiquement du changement de signe de mesure. Donc vous voyez qu'il y avait le rond avec un point, le rond sans point, le C avec un point, le C sans point. Un peu plus tard sont apparus des signes avec la barre, le C qui est là, donc deux unités divisées en deux, il existe toujours chez nous et on l'utilise pour indiquer la mesure à 4-4, et le C barré, on l'utilise toujours chez nous pour indiquer la mesure à 2-2. La question, c'est ces proportions exactes entre les différents types de mesures. On ne sait pas très bien jusqu'à quelle époque elle a survécu. On peut supposer qu'à partir du XVIIe siècle, les proportions ne sont pas automatiquement les mêmes et qu'on ne peut plus suivre les règles de proportion, ce qui du coup ne va pas très bien répondre aux questions sur les différentes variations Goldberg, parce que à cette époque-là, on n'a plus de proportions automatiques et c'est très difficile de savoir jusqu'à quel moment ça a survécu. Mais ce qui est sûr, c'est que pendant très longtemps, le chiffre de mesure était sous-entendait une indication de tempo, qui n'est pas forcément claire pour nous, mais si on écrivait une pièce à 12-16, ça veut probablement dire qu'on doit la jouer plus vite que si on l'écrit à 12-8, et des choses comme ça. Et il y avait des usages par rapport au type de chiffrage de mesure qui étaient malheureusement pas universels, qui étaient comme souvent, comme tout ce qui se passe à l'époque-là, à ces époques-là, local, et ce qu'on peut savoir sur la France en 1650 n'est probablement pas applicable à l'Allemagne en 1720 ou réciproquement. Donc c'est un petit peu compliqué. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que à partir de 1600 environ, même parfois un petit peu avant, on commence à voir apparaître dans les partitions des indications agogiques. C'est-à-dire qu'on voit indiquer allegro, presto, adagio, qui au départ sont des indications d'humeur, de caractère, d'affect, mais très très vite deviennent des indications d'agogique. Donc à partir du moment où on a des indications d'agogique, ça veut dire que les proportions ne sont plus automatiques, puisque un C, si les proportions sont automatiques, ça veut dire qu'une mesure, une mesure AC a toujours le même tempo qu'une mesure AC. Donc s'il y a des mesures AC avec allegro et des autres sans, ça veut dire qu'on a besoin de cette indication pour comprendre comment jouer le morceau. Parmi les sources que je connais bien et dont je peux vous parler aujourd'hui, il y a un traité de Hotteterre, qui est un traité sur l'art de préluder, qui est très intéressant pour toutes sortes de musiciens, qui explique, pour les instruments plutôt dessus, qui explique comment on peut faire un prélude avant de commencer. Vous savez tous que c'était très normal pour les musiciens de préluder avant de se mettre à jouer, pour chauffer l'instrument, et puis le prélude est devenu un objet en soi, et c'était normal, on écoutait le musicien qui prélude parce que ça faisait partie des choses qui étaient appréciées. Et dans cet art de préluder, il y a deux ou trois pages qui caractérisent les différents types de mesures utilisées dans son temps et dans son époque, dans son temps et dans son pays, dans son territoire, donc disons à Paris au début du XVIIIe siècle. Et il montre assez bien que quand on écrit une mesure à 3-2, c'est destiné à tel type de musique et qu'on la joue plus ou moins vite. Il ne donne pas des indications précises métronomiques, mais il dit voilà, on sait que ça sert à ça et c'est plutôt comme ça, et pour noter un rigodon on utilise tel genre de mesure, pour noter un menuet tel genre de mesure ou une gigue, etc. Et ça montre que cette idée que le chiffre de mesure en lui-même est une indication de tempo. Et encore une fois, malheureusement, cette idée de tempo n'est pas suffisamment universelle pour qu'on puisse trouver des règles simples à retenir pour toujours. Maintenant, un autre concept qu'on pourrait évoquer, c'est celui de barre de mesure. Vous savez que pendant des siècles au Moyen-Âge, la musique n'avait pas de barre de mesure, on n'en avait pas besoin, les signes rythmiques des notes étaient suffisants, et c'est vrai que d'une certaine façon, les barres de mesure sont redondantes. On ne devrait pas avoir besoin d'une barre de mesure pour savoir qu'au bout de 4 temps, c'est la mesure suivante dans une mesure à 4-4. Mais finalement, ça nous aide bien. Et donc, ça montre que la barre de mesure, si elle est une facilité de lecture, elle a aussi un autre intérêt, c'est qu'elle permet de créer une hiérarchie entre les temps. Quand on n'a pas de barre de mesure, on n'a pas besoin forcément de savoir si on est en train de jouer ou chanter le premier, deuxième ou quatrième temps. Alors que si on a des barres de mesure, on est toujours rappelé à l'ordre. À chaque fois qu'on arrive au premier temps, on sait que là, c'était le premier temps. Et ça permet de créer une notion très importante et qui revient à ce dont j'ai parlé tout à l'heure sur la façon de battre la mesure. On battait la mesure à l'époque avec l'idée qu'il y a un temps qui est en haut, un temps qui est en bas. Que ça soit binaire ou ternaire, c'est en haut, en bas. En haut, en bas. Le temps d'en bas s'appelait le frappé. Et le temps d'en haut, on l'a gardé en français, on appelle ça une levée. Le terme de dire une levée, pour dire une anacrouse, ça correspond à la main en haut. Tim, pi, tim, pim, tim, pim. Et cette hiérarchie des temps qui est liée à l'apparition ou à la nécessité de mettre des barres de mesure dans la musique, elle est liée à une alternance de temps fort et temps faible. Ce qui veut dire que quelqu'un a évoqué la question tout à l'heure, la notion de rythme, de tempo, elle est fortement liée à la notion d'accentuation. Et une chose est très claire, pendant toute la période, disons, allez, on va dire de 1600 à 1800, les temps forts sont des temps forts et les temps faibles sont des temps faibles. Ça veut dire que les temps forts, on les joue plus fort et les temps faibles, on les joue moins fort. Et tout ça est lié à toutes sortes de techniques propres de chacun des instruments. Pour les instruments avant, on va utiliser des coups de langue différents selon qu'on joue un temps fort ou un temps faible, ou une partie faible de temps ou une partie forte de temps. Pour les instruments à cordes, on va faire des archets vers le bas, des tirés sur les temps forts, etc. Donc la technique de chacun des instruments est liée à cette alternance de temps fort et de temps faible, et à l'intérieur de chaque temps, la partie impair est plus forte que la partie paire. Et donc quand on a quatre doubles croches, la première des quatre est la plus forte, et donc on a comme ça un zigzag d'accentuation entre ce qui est le plus accentué et ce qui est le moins accentué. Donc ça ne nous dit rien sur le tempo auquel on va jouer, mais ça nous dit que ce tempo, il se conçoit à l'époque avec une notion très claire de temps fort, qui sont le moment où la main tombe par terre, où le bâton de Lully tape sur le plancher parce qu'il trouve que ses musiciens ne sont pas en mesure, et parfois même qu'il tape sur son pied et qu'il en attrape la gangrène. Donc en fait, voilà, le tempo a des conséquences médicales éventuellement graves. Voilà. Maintenant, un autre... donc ça, c'était ce concept d'accentuation qui est inséparable de la réflexion sur le tempo pendant toute notre période. Ensuite, bien sûr, il y a l'idée de rubato. Et l'idée de rubato, c'est l'idée que la notation rythmique, elle est par nature toujours un petit peu approximative. C'est-à-dire qu'elle est destinée à des gens qui savent comment ça marche. Des exemples familiers, c'est que dans une valse viennoise, les trois temps ne sont pas égaux. Le deuxième arrive un peu trop tôt. Et ceux qui connaissent bien le style, ils savent exactement de combien trop tôt il faut le faire. Et c'est pour ça que Johann Strauss, quand il allait en tournée aux États-Unis, il avait exigé que le pupitre de deuxième violon de son orchestre l'accompagne, parce que c'est eux qui faisaient le umtiti, et ils étaient les seuls à savoir à quel moment on mettait le premier ti. Mais ça, c'est évidemment pas écrit dans la partition. Dans le rythme, il est écrit avec trois temps égaux. Et puis le rubato, ça peut être aussi qu'on a une guirlande de double croche et on les fait librement sans vraiment s'occuper de savoir comment elles sont verticalement ou concomitamment avec d'autres notes de basse ou d'accompagnement. Mais donc, très clairement, le tempo n'est pas forcément toujours quelque chose de complètement régulier, complètement... automatique, et de même que dans la valse où j'ai écrit là, dans le swing, des choses évidentes pour les lecteurs de la partition ne sont pas notées, il est bien probable que pour toutes les danses, et on va parler pas mal de danses, il y avait des particularités rythmiques qui étaient connues de tous ceux qui avait l'habitude. Un danseur de valse viennoise, il sait très bien où sont les temps et qui ne sont pas exactement réguliers. À la limite, il ne s'en rend même pas compte parce qu'elles sont comme d'habitude. Et je suis sûr qu'un danseur de sarabande, de courante ou de menuet avait le même rapport avec sa courante et son menuet, et que personne n'a jamais pensé à dire que dans la sarabande, il faut faire le deuxième temps un peu plus avant, un peu plus tard, ou je ne sais pas quoi. Mais les danses par nature sont des musiques où on joue un petit peu sur l'irrégularité du rythme pour en faire quelque chose d'expressif. Pensez au tango. Le tango, il a des temps qui sont chaloupés. Et c'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, vous pouvez observer que les grandes musiques de danse de toutes les cultures du monde, je pense au tango, mais plein d'autres choses, dans les traditions populaires en tout cas, c'est des musiques qui n'ont pas d'instruments à percussion. Dans la valse, il n'y a pas beaucoup d'instruments à percussion et il n'y a pas forcément l'idée que dans les danses, on a quelque chose de régulier et inéluctable. Et on a aussi des cas où les danses sont construites sur des rythmes asymétriques, impairs. Pensez aux musiques africaines ou aux musiques des Caraïbes qui ont des systèmes rythmiques extrêmement complexes avec des contretemps dans tous les sens et des contretemps du contretemps et des trucs très compliqués parce que faire une danse avec des percussions qui sont juste un 4-4 tout régulier, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et les gestes du danseur, ils ne sont pas en mesure strictement. Voilà. Donc ça, c'était le point Roubato. La question d'inégalité. Quelqu'un en a parlé tout à l'heure. Et alors, effectivement, il est très clair que dans la musique française, autour de 1700, la plus petite valeur des morceaux qu'on jouait, généralement les croches, mais pas toujours, se jouent de façon inégale. Et donc, elles sont écrites égales. Dans une mesure à quatre temps, souvent, il y a des noires qu'on joue régulières, et dans chaque noire, deux croches. La première est plus longue et la deuxième est plus courte. Et voilà, on sait tous plus ou moins ça. Ce qui est très compliqué, c'est de savoir quand est-ce que ça commence, parce qu'on a très peu de sources qui indiquent ça, mais il semble bien qu'en France, ça pouvait exister dès le XVIe siècle, mais on a extrêmement peu d'informations à ma connaissance. Et l'information la plus tardive que je connaisse, c'est dans des études pour piano, je crois qu'elles sont de Tcherny, annotées par Beethoven, et Beethoven écrit dans une marge. Quand vous travaillez cette étude, commencez à la travailler avec des rythmes pointés, tam 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 tam, et ensuite jouez-la normalement et les coins pointus tomberont. C'est-à-dire il a l'air de sous-entendre qu'il restera un tout petit peu de cette inégalité et que c'est ça qu'il faut. Et donc, c'est Beethoven, c'est au XIXe siècle. Donc, cette idée que les quatre doubles croches dans une noire ne sont pas forcément toutes complètement régulières, elle peut éventuellement durer très très longtemps. En tout cas, Léopold Mozart, qui est une des références de base pour la période classique, il en parle encore clairement. Maintenant, un autre point. Je vais essayer de ne pas être trop théorique. Il y a toujours une question dans la notation du rythme. Quand on écrit une blanche, est-ce qu'on écrit la durée de son qu'on va entendre ou est-ce qu'on écrit à quel moment on va jouer la note suivante ? Et pendant une grande période du XVIIe et du XVIIIe siècle, en fait, la notation de rythme indiquait à quel moment se produit la note suivante. C'est-à-dire qu'on pouvait écrire tom 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 ou ta da 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 de la même façon, avec le même signe de rythme. Et plus tard, au XIXe siècle ou même au XVIIIe, on va commencer à mettre une croche et un demi-soupir, une croche et un demi-soupir, si on veut des notes courtes. Mais pendant très longtemps, la notation ne précisait pas la durée réelle de la note qu'on joue. On jouait au début, mais on ne jouait pas à la fin. Et c'est parfois pas facile de déduire quand est-ce qu'on écourte les notes et quand est-ce qu'on n'écourte pas. Mais on a une indication qui est assez universelle, c'est que la plus petite valeur utilisée dans un morceau, par exemple, si on a un morceau qui est écrit à 4-4 en noir avec des croches, la plus petite valeur elle se joue longue et éventuellement inégale, et que les autres valeurs, et surtout la deuxième, on les joue courtes, séparées, et du coup égales. Donc ça veut dire que si j'ai un morceau avec des noirs et des croches, je vais avoir tom, 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 touro, touro, tom, court, 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 long, 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 court, 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 long, 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 long. Donc c'est à l'envers. La valeur la plus courte, on la joue longue, et la deuxième valeur, plus longue, on la joue courte. Ça, c'est un repère qu'on peut avoir assez facilement, ça marche assez bien. Il y a un lien avec la musique vocale qui est que la valeur la plus courte est une valeur où on chante des vocalises, donc on n'a pas une syllabe par note, alors que la deuxième valeur est une valeur où on a, qui est syllabique, donc on a une syllabe par note. Donc les instruments pour imiter la façon, les consonnes utilisées par les chanteurs à chaque syllabe, ils écourtent les notes puisqu'ils ne jouent pas le moment où le chanteur aurait chanté la consonne. Est-ce que je me fais bien comprendre ? Alors que dans une vocalise, il n'y a pas de consonne puisque c'est la même voyelle, et donc il n'y a pas besoin d'autant d'articulation, donc on joue long. Voilà, qu'est-ce que j'ai écrit ? Durée des notes. Un autre terme qu'on entend beaucoup, beaucoup chez les baroqueux, c'est cette idée de jouer au fond du temps. Les baroqueux ont pris l'habitude, on peut réfléchir pourquoi, en tout cas cette habitude existe de nos jours et depuis quelques décennies. Ceux qui ont commencé à le faire le plus, c'était la génération de Gustave Léonhardt et cette époque-là, donc disons la deuxième moitié du XXe siècle. Après la guerre en tout cas, c'était cette idée de jouer au fond du temps, c'est-à-dire que, en particulier pour des instruments qui n'ont pas de dynamique comme le clavecin, pour mettre en valeur une note, on la joue un peu plus tard. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Si je retarde légèrement la note que vous attendez, ça attire votre attention dessus et ça provoque un accent, ou en tout cas on perçoit un accent. Cette habitude s'est beaucoup généralisée dans la musique ancienne, dans la musique baroque en particulier, au point qu'on ne s'en aperçoit plus. On a tellement pris l'habitude de jouer au fond du temps, c'est-à-dire qu'on joue une mesure et puis on attend un tout petit peu et on joue le premier temps de la mesure d'après un tout petit peu en retard, ce qui va permettre de faire un accent. Alors, sous cette forme-là, à ma connaissance, il n'y a pas de source qui indique de faire de cette façon-là. C'est-à-dire de jouer, au fond, si je résume, l'intérieur d'une musique, d'une mesure plus vite, et puis on laisse un petit temps au milieu de la barre de mesure pour faire entendre plus clairement le premier temps de la mesure d'après ou la note qu'on veut accentuer qui va arriver. Mais on a des indications qui sont un petit peu plus ambiguës, mais qui parlent quand même clairement de retarder certaines notes qu'on veut faire entendre. Peut-être que les claviéristes parmi vous ont des idées sur cette question, pourraient préciser des sources qui parlent de ça, mais pour le clavecin, il y a des indications de retarder des notes pour les mettre en valeur. Je me trompe ? Non ? Pas d'opposition ? Très bien. Voilà, et donc je termine ce premier débat sur l'idée que il y a un lien fort entre le tempo, l'accentuation et l'articulation. Les temps forts sont forts, donc ils sont articulés, donc ils sont séparés de la note précédente. Les temps forts, donc les temps faibles, ils sont joués plus courts de façon à préserver une accentuation pour la note suivante. Maintenant, un autre point dont je voulais vous parler, c'est on voit apparaître donc à partir du début du XVIIe siècle des indications agogiques, donc des indications comme on y a écrit lentement, allegro, vivace, etc. Et assez vite, on voit apparaître l'idée que on a deux styles, disons les mouvements lents et les mouvements rapides, ou les allegro ou les adagio. Et pendant assez longtemps, on a une sorte de comment je peux dire, une sorte d'opposition et des règles d'interprétation ou des guides d'interprétation qui ne sont pas forcément les mêmes pour les mouvements lents et pour les mouvements rapides. Ça ne veut évidemment pas dire qu'il n'y a que deux tempi possibles, mais ça veut dire qu'on doit savoir que quand on joue un mouvement lent, c'est là qu'on va faire beaucoup d'ornementation. Ça paraît évident, mais ça ne l'était peut-être pas quand on venait d'une époque où il n'y avait pas ces possibilités-là, et qu'on va utiliser des coups de langue un peu plus marqués quand on joue un mouvement rapide. Donc il y avait cette idée-là qu'il y avait deux pôles. Évidemment, il y a aussi des mouvements intermédiaires, il y a aussi des mouvements très vite et des mouvements très lents, mais il y a quand même une sorte de répartition de la musique entre deux extrêmes, l'adagio et l'allegro, ou le lent et le rapide. Par exemple, dans le traité de Quantz, dont je vous recommande la lecture à tous, sauf éventuellement les parties techniques qui sont strictement de la flûte, mais ce traité qui s'appelle « Essai d'une méthode pour la flûte traversière », il comporte pas plus d'une moitié d'indications qui concernent directement la flûte. L'autre moitié est vraiment concerne tous les musiciens pour toutes sortes de choses. Avec, entre autres, c'est une pure digression, mais des indications rigolotes. C'est une des plus anciennes blagues d'altiste, par exemple, parce qu'il y a un chapitre sur les musiciens qui jouent de la violette. En gros, ils expliquent que c'est là qu'on met, donc la violette c'est l'alto, c'est là qu'on met les musiciens pas très doués et pas très malins, mais qu'il faut quand même qu'ils soient capables de jouer en mesure et juste. Il y a d'autres indications dans le genre, si vous transpirez et que ça vous empêche de jouer parce que sur votre instrument, vous avez les mains qui transpirent, alors vous mettez vos mains dans votre perruque poudrée et ça va absorber la transpiration et vous pourrez jouer plus confortablement après. Donc il y a toutes sortes d'indications très importantes comme ça. Tout ça pour dire que dans ce traité de Quantz, qui est assez amusant à lire, il y a des informations pour beaucoup, beaucoup d'entre nous, pas seulement ceux qui jouent de la flûte. Donc, dans ce traité, il y a deux gros chapitres, un qui est « Comment doit-on jouer l'adagio ?» et l'autre « Comment doit-on jouer l'allegro ?» et qui montre cette bipolarité entre les deux. Alors, évidemment, il explique qu'il y a des mouvements qui sont entre les deux et que dans ce cas-là, il faut comprendre où est-ce qu'on se place, etc. Ensuite, si je résume les termes d'agogique les plus fréquemment rencontrés, je fais un parallèle entre les termes en français et les termes italiens, et je les ai mis dans l'ordre de rapidité. Adagio, parfois adagio molto, ce qui veut dire littéralement à l'aise ou adagio molto, très à l'aise, c'est l'indication la plus lente, et en tout cas sans aucune ambiguïté, c'est une indication plus lente que l'indication largo, alors que sur nos métronomes modernes, le largo est indiqué plus lent que l'adagio. Ouais. Le largo, qui est généralement traduit par gravement en français, et contrairement à l'adagio, est une indication de quelque chose qui est lent, mais qui avance. L'andante, c'est-à-dire allant, qui est souvent traduit en français par modéré ou modérément, ou des choses comme ça, c'est un peu plus vite que le largo, mais pas forcément très différent. Ensuite, le degré suivant, c'est le vif, le vivement, le vivace en italien, qui est lui clairement moins vite que l'allegro. Alors que, pareil, sur notre métronome moderne, le vivace est plus vite que l'allegro. Je suis incapable de vous dire à quel moment ces deux interversions se sont produites. Et puis le plus rapide, c'est le vite ou presto, ce qui veut dire exactement la même chose dans les deux langues. Presto, ça veut dire en vitesse, même si en italien moderne. Voilà, donc vous pouvez retenir comme première indication, un petit peu concrète pour vous, cet ordre des 6 indications agogiques. que le plus lent c'est Adagio, le plus rapide c'est Presto, et sinon c'est l'ordre que j'ai indiqué là. Il faut se méfier d'une chose, c'est que il peut y avoir aussi des indications qui sont plus des indications d'affect. Par exemple, on va voir dans beaucoup de musique française, on va voir tendrement, affettuoso en italien, ou des choses comme ça. Alors, on peut supposer que tendrement, ça ne veut pas dire à toute vitesse. Mais on le déduit, c'est pas une donnée objective. Et probablement que tendrement, ça va pas être non plus d'une lenteur funèbre, parce que ça va pas. Donc tendrement, ça a des chances plutôt d'être du côté d'un tempo modéré ou avec un petit peu de vivacité quand même, mais pas trop. Mais c'est pas une chose qu'on peut ordonner par rapport à la liste des six que je vous ai mis là. Et puis des indications de caractères comme ça, il y en a de toutes sortes, et puis parfois il y en a qui sont un petit peu mystérieuses. Par exemple, Rameau utilise plusieurs fois un terme que j'ai toujours trouvé curieux, il écrit rondement. Super, rondement, mais probablement ça veut dire qu'il ne faut pas s'arrêter en route. Mais est-ce que ça nous donne une information sur le tempo? J'en suis pas sûr. Alors, maintenant j'en viens à qu'est-ce qu'on peut essayer d'avoir comme données objectives sur le tempo avant les indications métronomiques. Et il y en a de toutes sortes. La première indication, la première source, c'est évidemment les partitions elles-mêmes. Et qu'est-ce qui est faisable et qu'est-ce qui ne l'est pas? Il y a des limites de vélocité pour faire toutes les notes. On ne peut pas jouer plus vite que la musique. On n'a que 10 doigts sur un clavier, 6 sur une flûte, 4 sur un violon. Et il y a des choses qui sont juste pas possibles. Donc, il y a une limite maximum qui peut être assez bien déduite des partitions elles-mêmes, en tout cas pour les mouvements rapides. Mais il ne faut pas oublier que les musiciens à l'époque, ils étaient potentiellement d'un très haut niveau technique, en particulier à l'intérieur de leur style qu'ils connaissaient très bien et qui était le seul qu'ils connaissaient, ils pouvaient être très très forts. Par exemple, j'ai souvent cité ce truc qui est caractéristique: quand un musicien débutant, même un enfant, apprenait à jouer, en général la première chose qu'il apprenait à faire, c'était une gamme sur son instrument. La gamme la plus facile, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ou pour la flûte traversière, c'est plutôt ré majeur. Au violon, ça va être plutôt ré majeur ou sol majeur, où on va éviter les demi-positions et les extensions. Donc, on va chercher une gamme qui soit facile. La deuxième chose qu'on apprenait, c'était pas les dièses et les bémols pour compléter les 12 demi-tons, c'était les tremblements, les trilles. Ça veut dire que dès le tout début, on voit ça dans plusieurs méthodes, on n'apprend même pas encore à jouer un fa dièse, mais on apprend déjà à faire un tri sur le ré. C'est dire à quel point les ornements, pour eux, ils faisaient partie des notes. Ils étaient complètement, les doigts les faisaient automatiquement depuis leur temps d'enfance. Ils n'arrivaient pas à jouer sans les ornements, les doigts les faisaient tout seuls. Donc, ils avaient potentiellement une vélocité, une dextérité extrêmement grande. Et de fait, quand on voit les explications des ornements, les trilles sont souvent avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de battements. Et même si on essaie de jouer assez lentement, il n'y a pas beaucoup d'entre nous qui arrivent à faire dans les trilles autant de battements que ce qui est indiqué dans les tablatures d'ornements. Il y a 6, 8 battements, parfois plus, ce qui suppose que les trilles allaient très, 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 très vite. Nous qui avons commencé à apprendre à faire des trilles quand on était déjà grand, et bien peut-être qu'on est largement loin derrière eux qui avaient commencé à 5 ans à faire des trilles et qui pouvaient aller être extrêmement véloces. Donc l'indication des limites techniques, les nôtres ne sont peut-être pas les leurs. Et par rapport à ça, sur ces limites techniques, je prends toujours le cas du trompettiste génial pour lequel Jean-Sébastien Bach écrivait ses parties de solo de trompette dans ses grands oratorios. Il y avait à Leipzig, à son époque, un trompettiste qui pouvait jouer ça, qui était extrêmement fort, qui était admiré de tout le monde, et Bach écrivait pour lui. Et maintenant, tous les trompettistes du monde, ils doivent se taper des solos qui n'étaient écrits que pour un seul gars qui avait des possibilités, c'était le Mozart de la trompette naturelle, et Bach écrivait pour lui. Et maintenant, ben, quand on passe un examen de trompette naturelle dans n'importe quel conservatoire du monde, ben, il faut jouer les airs de Bach ou le deuxième brandebourgeois qui n'était faisable que pour une seule personne. Donc, il faut se méfier de ce critère de la technique. Notre technique n'est peut-être pas le bon guide. Ensuite, on arrive évidemment à une indication qui nous est donnée par la danse. Et cette indication, elle est extrêmement précieuse. Je vais y revenir un petit peu plus loin. On peut se poser la question de est-ce que les musiques, est-ce que quand on trouve une allemande dans une suite française de Bach, est-ce qu'elle est faite pour être dansée? Probablement pas. Mais elle était suffisamment ressemblante à une allemande pour que n'importe qui avait l'habitude la reconnaisse tout de suite. Donc, même si la musique n'est pas véritablement faite pour être dansée, elle doit rester dans ce qui est considéré comme acceptable comme tempo pour une allemande. Ça ne peut pas être deux fois plus vite et ça ne peut pas être deux fois moins vite. Et vous allez voir qu'on a un certain nombre d'indications relativement fiables. En tout cas, une chose est sûre par rapport à la danse, c'est qu'il y a un truc que les danseurs ne peuvent pas faire, c'est quand ils sautent, attendre en l'air que le musicien puisse jouer la prochaine note qui va arriver, qui est le moment où il va falloir qu'il retombe par terre. Ça, c'est un petit peu comme le pendule de la semaine dernière, la gravité est là, et on ne peut pas sauter et attendre que le musicien veuille bien. Voilà, donc le musicien, pour un danseur, il doit jouer à un tempo qui soit prévisible. Il n'est peut-être pas régulier, mais le danseur, il ne peut pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Même beaucoup moins que ça, c'est impossible pour un danseur. Le danseur, il fera son pas suivant au moment parce qu'il est dans son geste, il est dans sa logique corporelle. Donc ça, c'est une indication importante. L'omniprésence de la danse dans la musique instrumentale, en tout cas, mais pas seulement, même dans la musique vocale, pendant toute cette période-là, elle est pour nous l'indication d'un tempo qui continue, qui avance, qui est prévisible, qui a une logique autonome, et on ne s'arrête pas tout d'un coup et on ne recommence pas tout d'un coup brutalement. Alors, j'en viens à d'autres informations encore plus concrètes, et je ne vais pas vous les détailler toutes, parce que après ça devient long, mais dans les sources que j'ai indiquées en bas, vous en trouvez certaines, et puis si vous avez besoin de savoir tous les détails, vous allez trouver le bouquin de Milling et vous verrez toutes les indications. Mais on a des indications qui sont des minutages, et il y en a dans plein d'endroits différents, par exemple l'oratorio dans deux oratorios de Handel, il y a quelqu'un qui a dit cet air-là, il a duré tant de minutes, et parfois avec des précisions qui sont des minutes et demie ou des minutes et quart ou des choses comme ça, qui donnent des indications relativement précises. Et sachant que on suppose, on vient de le voir juste avant, que le tempo est plutôt régulier, à l'exception peut-être d'une cadence par-ci par-là, mais on peut avoir une précision relativement bonne des tempi. Y a pas mal d'indications comme ça de minutage qui nous permettent d'avoir des idées sur le tempo. Et ce que j'en ressors de façon... c'est pas global et un peu imprécise, c'est que les mouvements lents peuvent être très lents. À ma connaissance, un des plus lents qu'on ait mesuré, c'était dans le genre 40 à l'accroche pour un adagissimo. 40 à l'accroche, c'est vraiment très, 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 très lent. C'est quelque chose qui n'avance pas du tout. En revanche, les mouvements rapides peuvent être très rapides et d'une grande, grande virtuosité. Il y a eu à toutes les époques, c'est-à-dire du XVIIe, XVIIIe siècle et de nos jours, des tentatives pour essayer de faire des listes de tempi, de caractères, d'affetti qui soient universels. Mais tous ceux qui l'ont fait à leur manière et ça ne correspond jamais à ce qu'ont fait les autres. Donc, on n'arrive pas à avoir de concordance. Voilà. Une autre source, une interprétation d'un concerto grosso de Corelli à Londres, aussi avec des minutages qui nous donnent des indications précises. On pourrait avoir d'autres indications dans le même genre avec, par exemple, il existe, je crois, 2 ou 3 enregistrements sur orgue mécanique de concerto pour orgue de Handel. Il y a même un enregistrement d'un orchestre anglais, je ne sais plus lequel, qui a accompagné l'orgue mécanique qui joue les concertos de Handel, dans lequel d'ailleurs on voit que les ornements sont d'une vélocité que les organistes en chair et en os n'arrivent pas à atteindre généralement. Mais évidemment, un orgue mécanique, il y a quelqu'un qui tourne la manivelle et le tempo dépend de la vitesse à laquelle on tourne la manivelle. Donc, il peut là aussi y avoir une fourchette d'erreurs qui peut être légèrement trompeuse. Encore une autre indication de durée. Voilà un voyageur qui parle des concertos de Carl Philipp Emanuel Bach il répond à Burnet. Burnet a trouvé que les concertos de Carl Philipp Emanuel Bach étaient trop longs. Et donc cet auteur, Baudet, il répond vous prenez le plus long, vous jouez le plus lentement possible, vous jouez des cadences de 4 à 5 mesures et ça durera environ 20 minutes. Donc on peut plus ou moins déduire qu'est-ce que c'est que le plus long, le lentement possible qui sous-entend. Voilà, tout ça, ça donne des idées qui montrent que le tempo avait une grande importance pour eux, qu'ils en avaient une grande conscience, mais ce n'est pas forcément évident d'en tirer des conclusions qu'on puisse extrapoler. Ce n'est pas parce que tel air dans Judas Maccabée de Handel est joué à telle vitesse que tel autre, ça va marcher pareil. Donc, mais c'est quand même des indications précises. Alors ensuite, une autre indication beaucoup plus concrète, c'est qu'on a beaucoup de sources, et par exemple Quamps, qui mesure le tempo par rapport au pouls. Et il a la gentillesse de nous préciser qu'il s'agit du pouls d'un homme qui se porte bien et qu'il y a que ce pouls, ça correspond à 80 pulsations par minute, donc à notre 80 du métronome. Et après, il va faire une liste des différents tempi en disant celui-là se joue avec tant de pouls à 80 dans une mesure et donc ça nous permet de déduire quel est le tempo qu'il attend. Par exemple, il nous dit que l'allegro assai, ça correspond à une pulsation à 80 par blanche. Et donc là, on parle de mouvement à 4-4, donc allegro assai avec une pulsation par blanche, 80 à la blanche, ça veut dire très vite. Mais après, il donne des indications qui sont un petit peu plus compliquées à comprendre, parce que quand il dit l'allegretto va une fois plus lentement que l'allegro assai, qu'est-ce que ça veut dire une fois plus lentement? Difficile à comprendre. En tout cas, moi, ça me reste obscur. Comment ?
Non, mais il faut diviser par 2.
Il faut diviser par 1 si on comprend bien, c'est-à-dire ne rien changer. Enfin, ouais. C'est mystérieux. Voilà. Puis après, il dit, il y a dans la mesure pleine, c'est-à-dire le 4-4, une espèce d'allegro modéré qui tient presque le milieu entre l'allegro assai et l'allegretto. Et on doit compter dans cette mesure qu'il y a un battement de pouls sur 3 croches. Donc, 3 croches pour 80. Donc, on peut faire un petit calcul et trouver quelle vitesse ça va donner. Et puis encore, il dit, et puis il y a toute une liste, il y a plein de précisions. Regardez ce traité et vous verrez toutes les, toutes les indications qu'il donne. Et dans un adagio cantabile, il est chaque croche un battement de pouls, donc toujours dans une mesure à 4-4, ça veut dire la noire à 40, puisque la croche est à 80. Et 40, adagio cantabile, c'est pas l'adagio le plus lent du tout. Adagio cantabile, ça veut dire que c'est quand même chantant et que ça ne doit pas être trop plaintif ou funèbre. Et donc, l'adagio à 40, c'est déjà pas vite. C'est sur beaucoup de métronomes le tempo le plus lent qu'on puisse faire apparaître. En tout cas, sur les métronomes à balancier, généralement, il n'y a pas plus lent que 40. Mm-hmm. Voilà, donc ça conforte l'idée que je disais précédemment et qu'on déduisait des minutages, que les mouvements rapides peuvent être très rapides et les mouvements lents peuvent être très lents. Bien, on va arriver à un autre moyen de mesurer le temps musical, qui est le pendule. Alors, le pendule, moi je dois dire que la première fois que j'en ai entendu parler, c'était dans les albums de Tintin, avec le professeur Tournesol et son pendule, et qui disait un peu plus à l'ouest. Ça, c'est le pendule magique. Nous, on va parler d'un pendule un petit peu plus physique. Alors, pour frimer, je vous ai mis une belle formule physique qui dit que le temps d'oscillation. Donc, un pendule, c'est un fil long. Théoriquement, dont le poids du fil n'a pas d'importance, donc il est autant que possible léger, et au bout il y a quelque chose de lourd, un poids. Et ce pendule, une fois qu'on l'a lancé, il va avoir une oscillation qui est régulière. Et c'est là-dessus que se basent les pendules, les horloges comptoises qui ont un balancier comme ça, qui se balancent régulièrement et qui sont entraînés par un ressort pour que ça ne s'arrête pas. Parce que si vous avez un pendule qui est juste un fil avec un poids, vous le mettez d'un côté, vous le lâchez, il va se balancer. Et puis, l'amplitude des oscillations va diminuer jusqu'à ce qu'il s'arrête. Alors, on peut facilement se rendre compte soi-même que l'oscillation est régulière, même si l'amplitude diminue, c'est-à-dire le temps d'aller de droite à gauche est le même au début quand il y a 2 mètres qu'à la fin quand il y a 20 cm de déplacement. Ce qui est intéressant à savoir aussi, c'est que le temps que met le pendule pour aller de droite à gauche ou éventuellement pour aller du milieu au côté et revenir au milieu, c'est le même temps. Ce temps-là, il dépend, il se calcule avec le temps d'oscillation est égal à pi multiplié par racine de L sur G. G, c'est la gravité, donc elle est constante, sauf si on change de planète, mais c'est assez rare d'aller faire de la musique sur une autre planète. Elle dépend très, très, très légèrement de l'altitude. Donc, si on va faire de la musique au sommet de l'Himalaya, le pendule peut avoir une légère variation de vitesse d'oscillation pour une même longueur, ça ne nous concerne pas. En gros, la gravité, elle est constante où qu'on soit. Donc, ça veut dire que la seule variable qui n'est pas constante, c'est la longueur du fil. Le temps d'oscillation du pendule ne dépend que de la longueur du fil. Et j'ai fait l'expérience moi-même et je vous engage à la faire. Vous fabriquez un pendule. Vous prenez un fil, n'importe quelle ficelle que vous avez, un fil, et vous accrochez au bout quelque chose de lourd. Si vous avez un poids, c'est parfait, mais vous prenez une vieille pile, vous prenez n'importe quel objet lourd, et vous le faites balancer comme ça. Vous allez très bien ressentir dans votre main cette pulsation. Et la sensation physique, et on la sent très fortement dans sa main en balançant comme ça. C'est exactement le même principe que la balançoire de nos enfances, hein. La balançoire, elle se balance régulièrement et notre corps doit apprendre à ressentir cette oscillation de la balançoire qui est régulière pour pouvoir lui donner des impulsions au bon moment pour qu'elle se balance régulièrement. Et donc les enfants, ils apprennent à un moment à faire de la balançoire, ils apprennent à quel moment ils doivent se pencher en avant et en arrière pour entraîner le mouvement, et ce mouvement, il est régulier, que l'oscillation soit grande ou rapide. Et le moment où les enfants commencent à comprendre comment ça marche la balançoire, eh bien, ils vont avoir envie d'aller très haut avec la balançoire. Et ils peuvent le faire précisément parce que ce mouvement, il est prévisible et régulier. Soit dit en passant, le pendule est un outil extrêmement efficace de pédagogie pour les enfants qui ont des difficultés avec le rythme. On se dit qu'on va les faire chanter ou jouer en marchant, ces enfants qui ont des difficultés avec le rythme, mais le problème, c'est que la vitesse des pas et la vitesse des pas des enfants ne correspondra pas forcément à la vitesse de la musique qu'ils veulent jouer. Et ils ont, grosso modo, une seule vitesse de pas à laquelle ils peuvent aller de façon fluide. Donc, quand on leur apprend à utiliser un pendule et à chanter leurs airs avec un pendule, on peut choisir la longueur du fil adéquate pour que ça corresponde à la musique qu'ils sont en train d'apprendre. Et croyez-moi, un enfant qui a du rythme, qui a du problème de rythme, mais qui apprend avec un pendule dans sa main à faire tum au clair de la lune, avec le pendule qui oscille comme ça, il va résoudre une partie de ses problèmes de pulsation assez bien. Donc c'est un outil pédagogique très utile. Ça n'a rien à voir avec notre sujet. Une petite remarque en passant, un pendule de 1 mètre de long donne une oscillation de 1,002 secondes. À l'époque de l'invention du mètre, on n'avait pas remarqué ce petit écart. Et une des premières définitions du mètre, ça a été de dire c'est la longueur du fil qui fait que le pendule de cette longueur a une oscillation de 1 battement par seconde, ou 60 par minute, etc. Et maintenant, le pendule utilisé en musique, il est un petit peu plus complexe que ça. C'est un poids attaché au bout d'un fil qui est installé sur une potence. Le fil, il passe au bout de la potence. Ensuite, il passe sur la partie plate de la potence. Et il redescend de l'autre côté avec une petite cheville qu'on va pouvoir fixer dans un trou à différentes places et qui va de cette façon régler la longueur du fil. Et on peut faire une construction de telle sorte que on puisse lire selon les trous où on place la cheville, on puisse en déduire la longueur du fil oscillant. Et donc avec une graduation de cette règle sur laquelle on fixe le pendule. Tiens, peut-être que je pourrais vous trouver un dessin pour que ça soit plus facile. Est-ce que je suis clair dans mon explication ou vous auriez besoin d'un dessin? Ouvrez vos micros.
Moi, ça va.
Ça va?
Moi aussi.
Okay. Ok, tout va bien parce que voilà, donc en calculant en connaissant la longueur indiquée par un pendule, là on peut avoir une indication de tempo extrêmement précise. Et il y a, à partir de l'invention, de l'utilisation de ce pendule qui est à la toute fin du XVIIe siècle pour la musique, il y a plusieurs auteurs qui ont donné des tables et qui disent: Pour telle musique, pour un menuet, il faut un pendule de 3 pieds 6 pouces, je dis les chiffres au hasard, et que pour tel autre. Et puis après, ils ont fait des mesures encore plus précises avec une unité qu'ils ont appelée des tierces, ce qui n'a rien à voir avec la tierce d'un intervalle musical, mais qui sont des subdivisions d'une seconde, qui donnent des mesures très 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 précises des tempi qu'il conseille. Ici, dans le document que je vous ai envoyé, il y a une synthèse de différents tempi indiqués par des auteurs français donc par rapport aux calculs faits par rapport aux longueurs de pendule. Et ça, c'est des données assez objectives. Donc c'est intéressant de les voir. Donc vous avez ici les noms de l'auteur qui donne ces données précises, le type de danse, le type de mesure et le tempo métronomique indiqué. Alors déjà, une première observation générale, à l'exception de la filar qui donne ce 116 pour la gigue, les valeurs indiquées sont des valeurs petites. On trouve 40, 50, 60. Une fois ici, on trouve à 76, mais c'est un grand chiffre. 49. Ce qui veut dire que les indications qu'ils donnent sont des indications pour une grande valeur. Ils vont donner plutôt l'indication à la blanche ou l'indication à la mesure. Si on regarde, par exemple, le menuet, le menuet à 42, le menuet à 42, c'est forcément 42 par mesure, ça ne peut pas être 42 par temps. Alors qu'ici, d'autres, 80, ils le donnent plutôt visiblement par temps. Donc tout ça pour dire que quand il indique des valeurs de 20, c'est des valeurs de mesure ou de demi-mesure. Et ça, c'est très important à noter parce que ça veut dire qu'il s'intéressait, c'est à rapprocher de cette idée de lever et frapper. Lever et frapper. Donc, il va mesurer le temps entre deux frappés. Donc, dans une mesure à 4-4, nous, on va avoir tendance à dire le temps à la noire, et eux, ils disaient le temps à la blanche parce que c'était le lever, il ne compte pas. C'est de blanche à blanche à blanche. Donc, les indications sont généralement plutôt comme ça. En général, même s'il y a eu quelques controverses là-dessus, c'est pas très difficile parce que la marge d'erreur est pas si grande que ça. On va pas jouer deux fois plus vite ou deux fois moins vite, ça n'aurait aucun sens. On va très vite comprendre une allemande à 60, qu'est-ce qui est indiqué par ce 60, est-ce que c'est la noire, est-ce que c'est la croche, est-ce que c'est la blanche. Dans le cas d'une allemande, c'est forcément la noire. Ça ne pourrait pas être la blanche parce que ça irait vraiment trop vite, on n'aurait jamais le temps de jouer toutes les notes, etc. Voilà, donc vous avez ici une table qui est dans le document que j'ai placé, que vous pouvez télécharger, que j'enverrai à John aussi, qui vous donne un certain nombre de fourchettes. Donc ça, vous pouvez vous en inspirer en vérifiant toujours, bien sûr, que on ne se trompe pas d'unité de valeur rythmique pour appliquer ce chiffre. Remarquez certaines valeurs un petit peu extrêmes. Une ouverture indiquée par Donzembray à 32. 32 dans une mesure à 2, ça veut probablement dire la mesure, mais 32, c'est quand même une pulsation extrêmement lente. Pour nous, c'est très très difficile de tenir une pulsation à 32. C'est super lent. En dessous de 50, c'est pas facile de tenir la pulsation en dessous de 50. Et en dessous de 40, encore moins. Marie-Madeleine, avec qui on parle tout à l'heure, voilà une indication qui corrobore ce que tu disais tout à l'heure. Une ouverture, la partie lente de l'ouverture peut effectivement, en tout cas voilà une source qui confirme que ça pouvait être très très lent. Remarquez aussi la passacaille à 21. Bon, 21 pour la mesure, d'accord, mais c'est quand même très très lent. Et soit dit en passant, encore une fois, pour insister sur ce que je viens de dire, une passacaille, ça a 3 temps. Donc, ça veut dire que si on l'avait mesuré par temps, ça aurait donné 63. Et il n'a pas choisi de donner 63, il a donné 21. Ce qui peut laisser supposer qu'à l'intérieur de cette pulsation régulière, les 3 temps ne sont pas nécessairement réguliers. Comme dans une valse, si ça se trouve, il s'attend à ce que dans une passacaille, les 3 temps ne soient pas forcément tous exactement de la même longueur. Voilà, donc là, vous avez une source à laquelle vous pourrez vous référer. Alors après, une des grandes questions, c'est jusqu'où on peut extrapoler à partir d'une table comme ça. Vous connaissez tous, sur le XVIIIe siècle, l'opposition entre la manière française et la manière italienne. Et les Italiens avait la réputation de jouer les mouvements rapides plus vite que les Français et les mouvements lents plus lents. Donc, si on voit déjà que là, les mouvements lents chez les Français sont très lents, on peut en déduire probablement que pour les Italiens, ils l'étaient encore plus. Et sans aucun doute, et on le voit aussi par rapport à des minutages qu'on a, les allegro des Italiens, du Vivaldi, Corelli et toute la bande, ils allaient probablement très très vite. Donc, ça répond aussi à la question de Janet tout à l'heure. Il n'est pas du tout sûr que des tempi extrêmement rapides ne soient pas des tempi historiques. Et peut-être que s'ils nous semblent exagérés, c'est plutôt qu'ils ne sont pas très bien faits, c'est-à-dire qu'ils sont vite pour être vite, mais qu'ils ne sont pas suffisamment intégrés, suffisamment organiques chez qui le joue pour que ça devienne complètement naturel. Parce que, évidemment, cette histoire de naturel, elle est omniprésente dans la période baroque, avec une question extrêmement complexe par rapport à cette idée de naturel, puisque il faut apprendre à être naturel, ce qui est un oxymore, évidemment. Puisqu'on doit apprendre, c'est que ce n'est pas naturel. Et c'est le même naturel, je fais toujours cette comparaison, que le dessinateur qui va dessiner une volute, et la volute, elle est tout à fait naturelle. Et le dessinateur, il a mis 15 ans à apprendre à faire une volute naturelle. Pour nous, musiciens, jouer très vite naturellement, ça prend aussi beaucoup de temps pour que ça devienne fluide, automatique, et qu'on n'ait pas l'impression de quelque chose d'outré. Donc, je suis d'accord qu'on entend ces dernières années des choses qui vont très très vite, et je ne dirais pas forcément pour autant que c'est parce que le tempo est trop vite, ça peut être tout simplement parce que les musiciens qui font ça, ils mettent trop d'accent, c'est trop appuyé, c'est raide, et du coup, c'est pas naturel. L'espèce humaine étant grosso modo la même à toutes les époques, dans la mesure où il y a de la musique qui va très très vite chez les grands virtuoses du 19e ou du 20e siècle, je ne vois pas pourquoi on ne supposerait pas que les grands virtuoses du 17e ou du 18e, ils n'étaient pas capables d'aller aussi vite. Voilà, je ne vois pas de raison de supposer que dans la musique baroque, on doit aller par principe plutôt moins vite. Mais après, il faut assumer, et ce n'est pas forcément toujours évident. Une autre question d'extrapolation. Quand on n'a pas une indication de danse qui nous permet de savoir quel tempo on va appliquer. En fait, il y a énormément de pièces, et en particulier des pièces instrumentales, chez beaucoup d'auteurs en France, mais pas seulement en France. Tiens, je pourrais vous donner un exemple tout de suite que j'ai montré à mes étudiants hier soir. Je vais enlever ça et je vais vous montrer une autre partition. Une partition. Où est-ce que c'est ? Où est-ce qu'elle est ? Elle est ici, ici, ici. Voilà, je vous repartage l'écran. Faites-moi signe si vous voyez bien cette partition.
Oui, oui, ah ouais, c'est bon.
Vous la voyez. Donc, vous voyez une pièce, c'est une suite de Dornel pour flûte et basse continue. Ah. Et ici, on a une pièce. Et ah, est-ce qu'on pourrait en déduire un tempo pour savoir si s'il y a une danse dont ça se rapproche et qui pourrait nous donner une indication sur quel tempo on doit faire? Alors, on a une indication, la gracieuse. C'est déjà une sorte d'indication. Ça ne doit pas être si vite que ça et ça ne doit pas être si lent que ça, quelque chose de gracieux, probablement. Mais on peut reconnaître une danse. Est-ce que quelqu'un a une idée de qu'est-ce que ça pourrait être, cette danse?
Ce n'est pas un menuet, par hasard?
Alors, ce n'est pas vraiment un menuet, parce qu'un menuet, c'est des groupes de 4 mesures, c'est des phrases de 8 et 16 mesures, et là, ça ne colle pas bien. Ce n'est pas suffisamment fermé sur des groupes de 4 et 8 et 16 mesures. Donc, ce n'est pas vraiment un menuet.
Ah.
Comment?
Et courante?
Une courante, courante, oui. C'est bel et bien une courante. Et je vais vous montrer pourquoi. Est-ce que vous voyez un bon point, 3 points de plus à l'interro écrite.
Voilà.
Je vous montre qu'est-ce qui peut nous mettre la puce à l'oreille et déduire que c'est une courante. C'est une suite qui commence par un prélude, tout va bien, qui continue avec une allemande tendre, l'angélique. Et la troisième pièce, c'est la fameuse gracieuse. Ensuite, on a un rondo qui est une sorte de gavotte, une sarabande et une gigue. On a une suite française presque complètement régulière, sauf que plus ou moins la gavotte aurait probablement dû être après la sarabande, puisqu'on a souvent ces trois premières danses, allemande, courante, sarabande, danses diverses et gigue à la fin. Et celle-là, c'est effectivement une courante. C'est une courante française à l'italienne. Tim tim ta di da da tim ta da 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 tam ti am ti am ta din pam pam ta di da da tam pam pam pi da da ti tam pam pi tam pam pi da di da ti di tam pam pi di pam pi da 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 di da tam. Et la présence de ces hémiolles qui est là et la façon dont elles sont placées, c'est effectivement un signe qui nous met la puce à l'oreille en disant que c'est une courante. Donc elle est placée à cet endroit-là. Dans la suite, comme une courante, elle a le genre de figure rythmique d'une courante. Et quand on a l'habitude, on reconnaît des figures mélodiques. Tam ta da da dim pam 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 ti da da ti. Il n'y a pas ça que dans les courantes, mais c'est fréquent dans les courantes. Tam ti dam pam pi da di da da di tam pam pi di. Cette figure mélodique là aussi, elle sonne courante pour moi. Et ça, c'est parce que j'ai joué des dizaines, des centaines de courantes dans ma vie, et j'entends ça, et je suis comme quelqu'un qui entend une valse et qui automatiquement reconnaît que c'est une valse. Et donc, même s'il n'y a pas écrit courante, je vais pouvoir retourner à ma table de tout à l'heure, que je peux vous remettre après, où je déduis que c'est une courante, et donc je vais pouvoir appliquer un tempo indiqué dans la fourchette indiquée par les différents auteurs sur ce que c'est qu'une courante. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre comme autres exemples? Si vous regardez la musique allemande, Bach, Telemann, à cette époque-là, disons dans la première moitié du XVIIIe siècle, il y a énormément de pièces instrumentales, et parfois même de pièces vocales, on en trouve même dans des cantates de Bach ou d'autres, qui sont à l'intérieur d'un modèle d'une certaine danse que les musiciens à l'époque étaient capables de reconnaître automatiquement. S'il y a un air qui était un passe-pied, tout le monde voyait tout de suite que c'était un passe-pied et il en déduisait à quelle vitesse, puisque tout le monde savait à quelle vitesse on jouait un passe-pied. Si je vous chante tim 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 ta da di da da ta di dam diam pam pim pam pam pam, vous savez ce que c'est, le mouvement lent de la petite musique de nuit de Mozart. Généralement, j'entends tim tim ti ta ta di ta da ta di dam tam pa di tam ta, mais c'est une gavotte. Il n'y a aucun doute que c'est une gavotte. Ça n'a aucun sens. C'était évident pour tout le monde. Mozart lui-même, il a écrit des tas de gavottes. C'est une gavotte. Ou c'est une romance. La romance prend, quand elle est binaire, presque toujours la forme d'une gavotte. Donc, à l'époque de Mozart, il n'y avait pas écrit gavotte, mais c'était évident pour tout le monde. Donc, personne n'aurait eu l'idée de jouer au tempo que prennent la majorité des musiciens de nos jours. Parce que, voilà. Et puis, on peut reparler de cette petite musique de nuit en détail, mais on a des sur une pièce comme ça, à mon avis, assez peu de marge de manœuvre sur le tempo. Je vais revenir à ma table de tout à l'heure. Non, c'est pas celle-là. J'y reviens pas là. Si j'ai le temps. Je vous mettrai quelques autres, ou j'enverrai à John quelques autres documents un petit peu synthétiques comme ça, qui donne des indications pratiquement utilisables. Je vous donne une idée qui n'est pas forcément évidente. Quelques auteurs de l'époque se plaignent des interprètes qui ne jouent pas le menuet et son trio à la même vitesse. Par exemple, Leclerc, il précise dans une de ses préfaces des sonates pour violon qu'il faut jouer le deuxième menuet, qu'on appelle souvent trio, à la même vitesse que le premier, ou le majeur à la même vitesse que le mineur. Mais une indication comme ça, ça prouve qu'il y avait probablement des musiciens qui ne le faisaient pas et qui jouaient autrement. Et parmi les sources de minutage et de pendule, on a des indications assez précises qui montrent que le trio n'est pas du tout forcément à la même vitesse. Et en particulier, si je reviens, vous irez voir la partition, si je reviens à la petite musique de nuit, c'est ça qui m'y a fait penser, le deuxième menuet est un Ländler. Et le Ländler, il est, et on le reconnaît par sa forme mélodique, il est vraiment caractéristique, et le Ländler, il est moins vite que le menuet. Vous vous rappelez le menuet? Vite comme ça, c'est ça les indications d'époque. Et puis le Ländler, un petit peu moins vite. Avec la question de est-ce qu'il y a une proportion des tempos? Et plutôt pas. Voilà, donc par rapport au tempi des danses que je vous donne, il y avait implicitement chez les musiciens à l'époque un tempo connu de ces danses. Une gavotte, il pouvait y avoir une petite marge de manœuvre, et on peut considérer que les gavottes, elles ont eu tendance à ralentir entre leur apparition vers le milieu du XVIIe siècle et Mozart. Une certaine tendance à ralentir. Les courantes aussi ont certainement ralenti, les sarabandes sans aucun doute, les menuets, c'est pas évident. Probablement pas ou pas beaucoup. Et voilà, donc peut-être qu'on ne peut pas automatiquement appliquer des indications de la filard sur la petite musique de nuit de Mozart parce qu'il y a trop d'écart de temps, mais enfin quand même, une gavotte, ça doit rester une gavotte. Et quand Ravel, il écrit la valse, qui est une parodie de valse viennoise, et quand on connaît un peu la valse viennoise, on voit à quel point il s'en moque, mais ça ne peut marcher que si on joue au tempo d'une valse viennoise. Si on joue à un autre tempo, ben les blagues ne fonctionnent plus. Donc ça veut bien dire qu'il y a sous-entendu un tempo connu qui va faire qu'on va reconnaître qu'à tel endroit il fait les choses boiteuses. Voilà, donc j'ai essayé de répondre au plus de questions possibles, mais j'espère que maintenant vous avez plein de nouvelles questions à ajouter.
Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va faire dans la spontanéité, comme la dernière fois. Allez-y, posez des questions.
C'est juste encore un commentaire que la nécessité, l'apparence des mesures, mesuration, c'était au moment que la musique a évolué à être conçue horizontalement à verticalement. Parce que le tronc de Perrotin, Machaut, la musique était les voix qui étaient chantées en même temps, mais il n'y a pas eu la notion de faire harmonique comme ça. Et après, dans la Renaissance, les voix commençaient à chanter ensemble pour faire un accord.
Alors, ça, c'est une question très compliquée. Je pense que notre lecture a posteriori nous donne peut-être une fausse impression de comment les musiciens percevaient eux-mêmes ce qu'ils faisaient. Je pense qu'à la Renaissance, et probablement encore pendant une bonne partie du XVIIe siècle, les musiciens concevaient leur musique comme une polyphonie, avec plusieurs mélodies qui se déroulent ensemble et avec peu de conscience d'enchaînement d'accords. Et ils ont fait des enchaînements d'accords avant de savoir qu'ils faisaient des enchaînements d'accords, comme Monsieur Jourdain avec la prose. Les premières théorisations d'enchaînement d'accords, elles arrivent très très tard, beaucoup plus tard que le moment où on les lit dans la musique. Donc je ne suis pas sûr qu'ils en avaient toujours conscience. Mais ça, c'est un sujet très compliqué et on ne va pas s'y aventurer maintenant. Et en plus, je ne le connais pas bien.
Marie-Madeleine.
C'était pour savoir pour la suite, en fait. C'est-à-dire qu'en musique de chambre, là, dans l'association, beaucoup de monde joue de la musique du 19e. Et donc, comment est-ce qu'on tire un peu avantage de tout ce qu'on apprend sur ce qui s'est passé avant pour, quelle était finalement leur conscience justement des histoires de Tampi et tout ça au 19e. Tu as fait allusion à Beethoven, tu vois, bon.
Alors, déjà, c'est une période que je connais beaucoup moins bien, que j'ai eu l'occasion de jouer assez souvent, mais pas forcément d'avoir étudié ou d'avoir étudié la théorie. Je n'ai pas étudié de sources historiques du 19e siècle qui parlent de ces questions de tempo. Mais ce qui me semble, c'est que y a toutes sortes de traités, de méthodes qui vont faire des références complètement objective au métronome. À partir du moment où le métronome de Mälzel existe, on peut assez facilement aller trouver, soit chez le compositeur, soit dans les traités et les méthodes de son époque, des indications qui vont dire voilà, la symphonie de Beethoven ou de Brahms, elle se joue. Brahms, généralement, il donne des tempi métronomiques. Dans beaucoup d'œuvres, il donne des tempi. Il y a beaucoup de compositeurs qui les donnent, les indications. Il y en a d'autres qui ne le font pas, mais on a parfois des témoignages de l'époque qui disent, voilà, il jouait à telle époque, ou des élèves qui disaient, voilà, il nous a enseigné à jouer. Donc, je vous engage, là, une fois de plus, à aller voir les sources vous-même. Et voilà, ça prend un peu de temps, mais c'est très intéressant, on apprend plein de choses.
D'accord.
Pour revenir aux danses, est-ce qu'il existe quelque part un répertoire qui décrit ces danses? Par exemple, je jouais un morceau de Pierre Ney, qui n'est pas particulièrement baroque. Ma prof me dit, ça c'est une sicilienne. Je vais être sur une parole, mais je ne sais pas comment reconnaître une sicilienne. Et je ne sais pas non plus quelles sont les caractéristiques de cette sicilienne, indépendamment du tempo. Est-ce qu'il y a justement un temps fort plus accentué sur la première mesure et sur la troisième, un peu moins sur la deuxième, parce que j'imagine que ces danses, les mesures ne se reproduisent pas à l'identique sur toute la phrase d'une danse. Les pas sont même plus complexes que ça. Donc comment s'y retrouver quand on a une partition? Est-ce que c'est quel type de danse et comment l'accentuer?
Alors, déjà, une première chose, plusieurs petits éléments de réponse par rapport à cette question. Le terme de sicilienne est la dernière figure de danse issue de la période baroque qui a été utilisée par les compositeurs à une époque où il n'y avait plus jamais du tout de sicilienne dansée. Ce rythme tam, 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 il a été appelé rythme de sicilienne. On apprend même dans les conservatoires que ce rythme il s'appelle le rythme de sicilienne et on sait ça pour même une musique qui n'a rien à voir avec la période baroque, alors que on n'apprend pas au conservatoire un rythme de bourrée ou un rythme de sarabande qui en fait on pourrait caractériser à peu près aussi bien. Donc on a utilisé ce rythme de sicilienne tam, taram, tam, taram, tam, dans des contextes qui n'ont en réalité plus rien à voir avec la danse dont il est issu. Donc, avec un tempo qui peut n'avoir, lui, plus rien à voir avec ce dont ça aurait pu être issu. Et en plus, la sicilienne, est une des danses pour lesquelles on a des indications de tempo qui sont extrêmement disparates. On a souvent l'habitude de considérer, et en tout cas dans la musique italienne du XVIIIe siècle, quand on trouve des siciliano, c'est plutôt des mouvements lents. En tout cas, ils sont dans les sonates en place de mouvements lents. On a à d'autres époques des siciliennes qui sont des gigues. Et on trouve parfois même des gigues siciliennes. Donc plutôt des choses qui vont vite ou très vite. Donc malheureusement, la sicilienne, ce n'est pas tellement une indication de tempo. Ah, je viens d'assister à une chose absolument incroyable sur mon écran. Il y avait Marie-Madeleine, toute de rouge vêtue, qui était dans l'écran et qui a tout d'un coup disparu. Je ne sais pas comment a fait ton ordinateur, mais c'était absolument spectaculaire. L'effet spécial que tu viens de réussir de faire, Marie-Madeleine, était merveilleux. Très, très fort. Pardon pour la digression.
Si on joue de la musique baroque, il y a des indications. Comment est-ce qu'on s'y retrouve?
Pardon, je réponds à ta question précédente et ensuite tu me répètes celle-ci parce que je ne l'ai pas complètement entendue. Il faut faire attention quand on joue des musiques qui sont des références. Par exemple, la musique française du XXe siècle, ce dont tu viens de parler, a fait des références à des danses anciennes pour la mode qu'il y avait des anciens temps, l'ancien régime. Donc, on se met à écrire des pavanes pour une infante défunte. Et j'ai un vague souvenir, je ne suis pas sûr d'avoir vu la partition depuis longtemps, mais j'ai un vague souvenir que la pavane pour une infante défunte, elle est à 3 temps. Ce qui, évidemment, ne peut pas du tout être une pavane.
La pavane est à combien de temps?
Elle est à 2 temps, 2 fois 2 temps.
Ah. Je crois que la question, c'est où est-ce qu'on trouve tout ça? Est-ce que c'est consigné quelque part? Il y a des dictionnaires, je pense que le dictionnaire de musique... C'est une bonne source. Il y a un bel dictionnaire qui est sorti il y a quelques années. Mais...
Je vais envoyer à John un petit document qui fait une dizaine de pages, que j'ai appelé Compendium d'interprétation de la musique baroque, qui est un document pédagogique que j'ai fait pour mes étudiants. J'ai une classe d'étudiants à la Sorbonne qui sont des étudiants, j'allais dire, de musique normale, qui n'ont jamais fait de musique ancienne, mais qui vont faire un semestre d'initiation. D'accord. Alors, ils viennent avec n'importe quel instrument, un violon, un piano, un saxophone, tout ce qu'ils veulent, et pendant un semestre, ils vont apprendre un certain nombre de bases sur l'interprétation historiquement informée et les règles de lecture des partitions de musique baroque. Donc, je vais l'envoyer à John, et dans ce document il y a une petite liste de danses avec leurs principales caractéristiques.
Super.
Et puis il y a d'autres choses. C'est évidemment extrêmement simplifié parce que c'est vraiment je ne sais pas comment dire, c'est le baroque en une leçon, quoi.
Baroque pour les nuls.
Moi, j'avais une autre question sur l'articulation, parce que ma difficulté à la flûte, mais je pense que ce n'est pas que à la flûte, c'est que quand j'articule, donc techniquement, je perds le rythme. Alors que peut-être parce que je suis aussi claviériste et donc du coup, je donne un peu le sens de la phrase en m'attardant sur une note, comme ça a été expliqué tout à l'heure. Hein. Mais cette histoire d'articulation, est-ce qu'il y a des conseils pour rester dans le temps?
Alors, pour rester dans le temps, je ne sais pas. Ce que je peux dire, c'est que dans la majorité des traités techniques des instruments, le chapitre le plus gros, c'est presque toujours le chapitre sur l'articulation.
Ah ouais.
Ça montre à quel point c'était important pour eux, à quel point c'était variable, à quel point c'était différencié. Il y a toutes sortes d'articulations différentes qui sont utilisées de plein de façons. Alors, il y a des instruments avant. D'une certaine façon, c'est relativement simple parce que ça consiste à expliquer quelles consonnes on utilise avec la langue pour articuler, de quelle façon, etc. Mais dans le traité de Quantz, le plus gros chapitre de très loin, c'est le chapitre sur l'articulation et sur les différents coups de langue qu'on doit faire. Et dans énormément de traités de violon, le chapitre le plus gros, c'est celui des coups d'archet. Donc, je me garderai bien de répondre en trois phrases à cette question de l'articulation. Il y aurait énormément de choses à dire, mais ça, c'est pas très facile à faire en vidéo et sans prendre des vrais exemples. Mais ce qui est sûr, c'est que l'articulation, c'était la question centrale pour la bonne façon, le bon goût, comme on disait à l'époque, de même que à partir du 19e siècle, on pourrait dire que les nuances sont devenues une question centrale. Les nuances au 17e, 18e siècle, c'est une question complètement périphérique. D'ailleurs, il y a plein d'instruments qui n'ont pas de nuances, le clavecin, l'orgue, des tas d'autres, et ça ne manque pas. Ce qui est intéressant, ce qui est éloquent, c'est l'articulation. Au 19e siècle, l'éloquence va se mettre à passer beaucoup plus par les nuances.
D'accord.
Donc voilà, je botte en touche pour la question de l'articulation.
Non, mais j'ai un prof qui me travaille là-dessus beaucoup.
Voilà, mais dans mon petit compendium, il y a quelques lignes sur les questions d'articulation.
Donc si je comprends bien, il faut vraiment lire Quant.
Ça, c'est une très bonne idée de lire Quant. C'est de toute façon lire les sources, c'est absolument passionnant.
D'accord. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Dominique, si j'ai bien compris, tu avais une question sur les variations de Goldberg, sur les proportions et sur les enchaînements entre les différentes variations.
C'est-à-dire que si on commence à parler de ça, ça peut prendre des heures. Là. Parce que, comment te dire, pour moi, il est évident que la structure générale des Goldberg, l'architecture, elle est faite par les rapports de tempo entre chaque variation. Je pense à la question sur la grande vélocité. Je veux dire que, par exemple, quand tu écoutes la version de Gould, c'est même celle Pierre-Antaille, c'est des tempis extrêmement rapides. Gould, c'est presque humainement impossible. Je ne sais pas comment il fait, quoi. De toute façon, il avait une tête un peu particulière. C'est bon. Moi, je trouve que par exemple, tu vois, curieusement, celle qui me met le plus proche dans la structure des tempis, c'est celle de Kate Jarrett. Parce que figure-toi que Kate Jarrett a enregistré les variations de Goldberg au clavecin.
J'ai entendu ça il y a très longtemps.
Donc j'ai des questionnements parce que pour les jouer, il faut trouver une solution on ne peut pas non plus dire qu'on ne va pas jouer très vite parce qu'on n'est pas capable de jouer vite. Je veux dire, il faut trouver aussi une justification artistique qui soit convaincante. Enfin voilà, c'est compliqué. Moi, donc c'est quelque chose que j'aimerais. Donc j'ai mes réponses, hein, mais ce que je trouve intéressant, c'est de les confronter avec d'autres et peut-être un jour, si on a l'occasion de se rencontrer, que je te les joue et qu'on discute plus concrètement sur la chose. Je fais juste une petite parenthèse. Je me suis lancé dans une relation entre les concepts de Leibniz et notamment le calcul infinitésimal et la musique de Bach. Et j'ai trouvé des choses absolument incroyables. Je trouve qu'il y a et ça peut éclairer aussi sur indirectement sur le tempo dans la pensée quoi de la chose. Il y a une pensée globale à cette époque, je trouve.
Absolument.
Qui se comme dit Deleuze, puisque je me suis plongé dans les cours de Deleuze qui sont sur Internet, là, sur YouTube, un flux de pensées, quoi. Un flux de pensées dans lesquels les philosophes vont prendre certaines idées et les musiciens, certains sons et certaines architectures, notamment. Enfin bon, voilà, c'est un sujet qui me passionne et je ne voudrais pas allonger de quelques heures la discussion là, mais à l'occasion, on pourra peut-être.
Alors. Ça me semble très intéressant. Je propose que Marie-Madeleine nous fasse un mail commun pour qu'on ait nos coordonnées et qu'on puisse se parler.
Peut-être qu'un jour on se retrouve dans sa maison qui est quand même à cette destination-là, hein, Marie-Madeleine.
Alors, avec plaisir, mais ça risque d'être dans assez longtemps et on peut en parler même à partition en main avant que j'ai l'occasion d'aller à Salon de Provence. Oui.
Avec plaisir.
Donc,
peut-être pour tout le monde, les tempis que tu as donné là, la grande liste, Oui. Où on disait que, par exemple, ça pourrait être sur la mesure. Ça, c'est des tempi qui ont été donnés par les théoriens de l'époque. Hein.
C'est ça.
D'après
les pendules.
Mais alors, le pendule, est-ce qu'on on compte l'aller-retour ou l'aller, simplement
On compte de milieu à milieu. C'est-à-dire, quand c'est le pendule il fait comme ça, ça fait 1, 2, 1.
Donc, c'est qu'un aller.
Voilà, et quand c'est ça, c'est l'aller. Et quand on regarde le pendule, le moment qui est facile à repérer, c'est pas le moment où il est au bout. C'est-à-dire, oui. On pourrait aussi, ça ferait le même tempo, faire 1, 2, 1, 2, mais c'est difficile à voir. Le moment qu'on voit bien, c'est le moment où il passe à la verticale. Donc, on se met en face et on fait 1, 2, 1,
d'accord.
2. Et il y a d'ailleurs, c'est assez intéressant à essayer de faire. J'ai essayé plusieurs fois, c'est super difficile. L'exercice conseillé pour le musicien qui dirigeait l'orchestre, qu'on appellerait maintenant le chef d'orchestre, à l'époque, c'était de lancer un pendule et d'apprendre à sa main à le suivre et qu'avoir le poids du pendule sans le toucher dans le creux de la main. Apprendre à avoir un mouvement qui est aussi prévisible et logique que le mouvement du pendule.
D'accord. Bon, merci en tout cas.
Okay. Voilà. Juste Leibniz, c'est quel ouvrage? Qu'est-ce qu'il faut lire de Leibniz?
Ah ben, oh, alors, je ne sais pas, parce que moi, je suis incapable de lire Leibniz. J'ai écouté les cours de Deleuze, Gilles Deleuze. Alors, je peux vous envoyer, ou faire passer à Marie-Madeleine, j'ai noté les liens pour écouter les cours de Deleuze, et ils ont d'accord. été retranscrits, réécrits.
Okay, voilà. Super.
C'est très clair. Oui.
Parce que Leibniz, c'est pas trop mal écrit, alors que Deleuze, c'est super bien, mais c'est très, très difficile. Hein.
Là, moi, j'ai tout compris. Hein, donc,
Non. Je vais regarder après, ça. Merci.
Bon, comprendre et intégrer, c'est différent. Hein, mais il a un discours qui est très, très clair. Là. Mais je vous enverrai les...
Merci je ferai beaucoup, passer
ouais. Madeleine.
Voilà. Avec plaisir, ça m'intéresse aussi.
Oui, oui.
Je confirme cette idée de pensée homogène, c'est-à-dire que les philosophes, les musiciens, les artistes, les médecins avaient cette idée que l'intégralité du monde était un reflet de la pensée divine et que donc on pouvait analyser avec les mêmes outils. Aussi bien le corps humain, une partition, l'harmonie des sphères, la distance des planètes. On en a parlé l'autre fois, je crois.
Oui, tout à fait.
Oui, mais tu vois, Jean-François, par exemple, l'idée des proportions qu'on pourrait avoir à la Renaissance, ça peut donner dans la musique baroque des fois des relations de tempo extrêmement rapides, trop rapides. Et moi, j'ai trouvé un truc dans les Goldberg qui est de garder pour certaines variations la plus petite valeur. Par exemple, la double croche reste la double croche.
Alors, ça existe. Dans la notation mensurale, ça existe.
D'accord. Ah oui, je ne savais pas ça. D'accord.
La notation mensurale, ce qui est très complexe, c'est qu'il y a des proportions extrêmement variées. Ce n'est pas toujours la grande valeur qui est conservée. C'est parfois justement la petite.
D'accord. Parce que, si tu veux, j'en avais parlé avec Wilhelm Janssen, tu vois, de cette chose-là. Lui, je trouve qu'il a une expression qui m'a bien convaincu, c'est que, en fait, c'est le débit de la parole. C'est comme le débit de la parole, en fait. C'est-à-dire que, par exemple, dans un récit de Lully, si on a une prosodie, la mesure change, mais la parole, elle a un débit.
Ça marche bien pour les récits de Lully, mais moins bien pour les variations Goldberg.
Ah ben, ça faudrait que je te montre en direct, par exemple, entre la 19 et la 20, il y a une mesure à 3-8, et puis le truc s'arrête de tiraram, pam, pam, pam. Et après, tu as la variation avec les syncopes. Et si on garde la même double, ça marche tout à fait bien. Quoi.
Enfin, bon. Voilà. En tout cas, une chose est sûre, et qui me semble probablement une des choses que tu sous-entends quand tu parles de caisse d'arrête, Cajaret, c'est un musicien au feeling. Il a déjà trouvé quelque chose qu'il n'avait pas complètement intégré en lui-même et qui ne faisait pas partie de lui-même. Donc, tous les tempi qu'il joue, ils lui sont complètement naturels. Je ne sais pas s'ils sont discutables musicologiquement, mais en tout cas, cet aspect-là de musicien qui a totalement absorbé ce qu'il fait et c'est devenu lui-même, c'est bien lui.
Oui. Mais je trouve qu'il y a une logique. Et si tu veux, je ne veux pas trop alourdir le débat là, mais quand j'entends des pianistes, parce que je parle avec des pianistes qui travaillent ça, et qui me disent je vais jouer cette variation, ce tempo, parce que je la sens comme ça, et ça me semble insuffisant. C'est-à-dire qu'évidemment que Bach et tout ça, c'était des êtres humains, je veux dire, ils avaient des émotions, tout ça. Mais on peut placer des émotions ou des idées sur une idée d'une structure ou d'une façon de penser globale d'une époque.
Alors, je pense que si c'est une référence philosophique, j'ai fait un peu de philo, le problème de Leibniz, c'est que l'âme et la relation de l'âme au monde est prédéterminée par Dieu. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation comme dans la philosophie du 19e siècle et après, où la relation se fait par la perception qu'on peut en avoir. Ça se fait par Dieu. C'est parce que nous sommes un élément d'un monde métaphysique qui a été créé par Dieu que ce que nous ressentons correspond à la réalité de l'objet que nous avons. Donc, quand on entend un rythme qui serait différent subjectivement aujourd'hui, par exemple, on va entendre Keith Jarrett dans du jazz et on va le ressentir d'une certaine façon et on va avoir, nous, notre relation individuelle à nous, à Keith Jarrett. Ça, c'est une pensée impossible pour cette époque-là, à mon avis. C'est seulement par Dieu que l'on puisse avoir cette connaissance. Donc, il doit y avoir... moi, je pense... c'est pour ça qu'il cherchait le secret mathématique d'une façon si rigoureuse, non?
Ce qu'il dit, Leibniz, c'est qu'il dit que chaque sujet, donc chaque personne, contient le monde entier.
C'est ça.
Mais l'observe d'un point de vue particulier. Et ce point de vue, ça n'est pas un point de vue qui est une opinion, mais c'est un point de vue géométrique. C'est-à-dire qu'il a été placé à tel endroit et donc il voit les... Mais il perçoit la totalité du monde comme une rumeur, de façon inconsciente, et il en perçoit une façon consciente, une petite façon consciente. Voilà.
Ouais, d'accord. Ça, c'est super bien exprimé. J'essaie de...
Écoutez les cours de Deleuze, ils sont...
oui, je vais l'écouter. Mais je reconnais bien Deleuze à travers Leibniz, là. Hein. Mais on est quand même dans un truc de métaphysique. C'est que, du coup, même si on est à un angle différent,
oui, absolument.
C'est néanmoins décidé par nous.
Oui, bien voilà, sûr. Et ce qui était important pour les compositeurs, et certainement pour Bach, qui était un compositeur qui avait fait des grosses études littéraires, latinistes, etc., c'est que le créateur d'une œuvre devait autant que possible se rapprocher des constructions dont on supposait qu'elles étaient les constructions divines. Pour atteindre la perfection, il fallait utiliser les règles de géométrie. Qu'on considérait comme universel, autant, comme je disais, pour la distance des planètes que pour les parties du corps humain. Et donc, Bach utilisait ce qu'il connaissait, ce qu'il supposait, ce qu'il espérait. Donc, il est probable qu'un esprit aussi construit et synthétique que lui avait des idées précises sur les enchaînements de tempo et qu'il a essayé de nous les transmettre.
Oui.
Mais comment ?
Alors justement, quand on se verra, Jean-Christophe, on en parlera. Mais sur le bon à tirer, une copie du bon à tirer des Goldberg de Bach, hein, qui est sur le site de l'ABN. Et Bach a rajouté en rouge ses indications, et notamment pour la septième variation, il a marqué al tempo di giga. Et on dirait que, et donc c'est assez précis, mais on dirait qu'à un moment, il marque à la brève. Il y a plusieurs sébarés, mais il y en a un sur le marque qui marque à la brève. Et on dirait que ce sont des indications qui permettent de recadrer un peu l'évolution. C'est-à-dire que à ce moment-là, ça pourrait partir dans une toute autre direction, et hop, il recadre.
Oui, tout à fait. C'est tout à fait ça. Et ce qui rend les choses difficiles, c'est que nous, on ne sait pas dans quelle direction ça aurait été sans ce recadrage. Donc, ça rend les choses complexes. Et aussi, une autre chose à dire, parce que Marie-Madeleine m'a dit tout à l'heure que ça faisait partie des choses auxquelles tu réfléchissais, qui sont effectivement très intéressantes, c'est quel temps on laisse entre les variations ou plus généralement entre les mouvements d'une suite, d'une sonate, etc. Et ce que je peux dire par rapport à ça, c'est qu'à ma connaissance, on n'en sait rien. Si on regarde le début de la sonate, les toutes premières sonates publiées en 1604 par Giovanni Paolo Cima, c'est des sonates qui sont en un mouvement. Et puis ensuite, les sonates vont être écrites d'un seul tenant, comme, je sais pas, par exemple, les sonates de Castello, Frescobaldi ou des canzones de cette époque-là, mais avec des changements de tempo. Ouais. Et puis progressivement, on va arriver en Italie avec les sonate da chiesa, sonate da camera, et dont on peut supposer, quand on regarde par exemple les éditions d'époque des sonates de Corelli, on a l'impression vraiment que les mouvements s'enchaînent sans interruption. Le graphisme n'a pas l'air d'indiquer la moindre place de silence entre deux mouvements. Dès qu'on a fini la dernière note d'un mouvement, on enchaîne directement comme si c'était la suite, comme une sonate du début du XVIIe siècle. Oui. Puis le temps va passer et on va commencer à séparer, mais à ma connaissance, on ne sait pas du tout à quel moment il commençait à y avoir un temps entre les mouvements. En France, il y a des choses intéressantes par rapport à ça. Par exemple, dans des œuvres religieuses de Charpentier, où on a des indications, une petite pause entre deux mouvements. Oui. Dans les Leçons de ténèbres de Couperin ou d'autres motets, on a des indications. Ce qui a l'air de supposer que s'il n'y a pas une indication comme ça, ça veut dire qu'on enchaîne direct. Et ce qui ne correspond pas à notre pratique moderne.
Tout ça ne dépendait pas des questions d'écoute et de production de la musique, parce que la musique dans une église avec le recueillement et la réverbération, ce n'est pas la même chose qu'une sonate qui était peut-être donnée dans un salon avec des gens qui discutaient, et ce n'était pas la peine de s'arrêter parce que de toute façon. Et après, quand les gens commençaient à écouter et à applaudir, on s'arrêtait éventuellement pour se faire applaudir. Enfin, il y a aussi les conditions sociales de production de la musique, il n'y a pas que la musique elle-même.
Donc, absolument.
Oui, j'ai là, il me semble.
Tout à fait d'accord avec ça.
L'école Berg, en fait, ce que Bach a édité, et l'art de la fugue ou l'offrande musicale, c'est la dernière partie de sa vie. Je trouve que c'est une musique qui est de plus en plus spéculative, à mon avis. Alors, Jean-Christophe, je pourrais te l'envoyer, une analyse, j'ai oublié le nom du musicologue, qui prouve une chose dont je suis convaincu depuis longtemps, c'est que Bach a fait exprès d'inachever l'art de la fugue. Et que non seulement il a fait exprès de l'inachever, mais en plus il a dirigé l'édition et qu'il a fait exprès de mettre des erreurs pour proposer une énigme. Et mon idée, c'est que il a dû s'apercevoir à un moment que ses spéculations étaient tellement élevées qu'elles se détachaient de l'humanité, enfin de l'humain, quoi. Parce que je trouve que, par exemple, les canons de l'art de la fugue, c'est une musique qui est presque dénué de sentiments ou d'émotions. Enfin, pour moi, c'est voilà. Et que, alors, d'après ce musicologue-là, c'est Bach qui aurait écrit, et sur ses notes, le compositeur est mort de sa main. Et que, à mon avis, c'est une mort qui est une mort, comment dire, artistique, c'est-à-dire, voilà, là maintenant, ma musique et mes pensées ne sont plus de ce monde-là. Et il paraît qu'il aurait dit en mourant. Ne pleurez pas sur moi car je m'en vais où la musique est née. Je trouve ça extrêmement touchant.
C'est très joli. Je ne connais pas cette anecdote. Moi, j'étais resté sur l'idée que c'est Carl Philipp Emanuel Bach qui avait fabriqué cette légende en écrivant les quelques mots à la fin. Mais moi, je suis aussi très séduit par l'idée que Bach n'a volontairement pas terminé, puisque un des arguments, c'est que la dernière pièce s'appelle Fuga a quattro soggetti, et le seul sujet qui n'apparaît pas, c'est le premier, et donc voilà, évidemment, il faut, si on veut compléter, il faut réintroduire celui qui n'a pas mis, etc. Mais il y a peut-être une autre raison qui fait que sa musique devient très spéculative, c'est que des choses comme les Goldberg et l'offrande musicale, ce sont des ouvrages destinés à une société savante pour lesquels chaque année ils devaient présenter un travail théorique.
Oui, un mystère. Les Goldberg, je ne suis pas sûr de ça. Mais,
il me semble que oui, mais peut-être.
C'était dans les claviers ou boum. Enfin bon, de toute façon, il était dans cette mouvance-là, et je crois depuis le moment où il a commencé à avoir des problèmes avec toute la hiérarchie à Leipzig, il y a un moment où il a lâché l'affaire, où il s'est occupé de plus de sa musique à lui que voilà.
Mais bon,
C'est à propos des légendes, j'ai l'impression quand même que Bach se servait un peu de tout ce qu'il faisait dire à ses enfants ou à ses proches. Et c'est pas impossible que ses enfants, Carl Philipp, et transmis ce que son père lui avait demandé de transmettre. Je sais pas. Bon, il va falloir que je vous laisse parce qu'en fait, je suis au conservatoire. Il faut que j'aille voir mon directeur pour régler des trucs compliqués pour cette période-là. Voilà.
Ben, merci d'avoir apporté toutes ces réflexions. Hein. Je pense qu'on va peut-être s'orienter vers la fin de cette conférence.
Voilà. J'espère que ce n'a pas été trop envahissant.
Non, pas du tout. Mais merci infiniment. Hein. Et puis, nous, on souhaiterait faire un petit point avec Marie-Madeleine et Jean-Christophe après.
Oui, je vous laisse. Hein.
Madeleine, vous voulez dire quelque chose là?
Oui, je voudrais juste. C'est un peu décalé par rapport à ce qui vient d'être dit, et merci beaucoup d'avoir assisté à cet échange très très riche. Mais je faisais écho aussi à ce qu'on s'est dit ce matin, Jean-Christophe, c'est la relation entre ce qui est écrit et ce qui n'est pas écrit. Dans la musique, effectivement, du 17e et du 18e. Et au 17e, on a fait un travail avec un groupe de personnes sur la musique française et sur le traité Muffat, en se rendant compte, comme tu le disais d'ailleurs, quand on travaille une gamme, tout de suite on met les agréments, les ornements. Et en fait, pour revenir à la question du tempo, s'est rendu compte que les ouvertures à la française, en fait, étaient extrêmement ornementées. Du coup, par rapport au tempo, évidemment, il y a des tempi qui sont plus du tout possibles. C'est rapide. D'ailleurs, les ouvertures sont souvent marquées fort lentement. Donc, fort lentement, c'est-à-dire très, très, très lentement. Et effectivement, si on imagine tous les ornements qui sont écrits dans le traité de Muffat, on ne peut plus jouer, vu tout ce qu'il faut rajouter. On ne peut plus jouer à un tempo très rapide et ça introduit énormément de souplesse et de fluidité dans cette musique. Alors, c'est juste pour dire aussi que, du coup, ça peut être intéressant, y compris sur le 19e, 18e, 19e, de voir que, progressivement, tous ces éléments-là ont été écrits. Et donc, dans la musique de Bach, d'ailleurs, je crois que, je ne sais plus à quel endroit, mais on dit qu'il se méfiait énormément des interprètes qui rajoutait énormément de choses, il trouvait qu'il y en avait trop, et que du coup, là, il y a plus de lisibilité du tout du discours par rapport au souhait de virtuosité des interprètes. Du coup, il écrit tout carrément, et donc tout ce qui est les ensembles de double croche, etc., finalement, on se rend compte qu'il y a une structure derrière tout ça. Et donc, si on fait le travail inverse, c'est-à-dire de déduire la structure par rapport à toute l'ornementation, on retrouve effectivement des éléments du discours qui sont intéressants. Et le fait que quand on fait le travail de passage de l'un à l'autre, ça donne une vision de cette musique qui se refonde, hein, je veux dire, par rapport justement aux éléments rythmiques, aux éléments de tempi, y compris sur les questions de rubato, d'irrégularité, etc. Puisqu'il y a des éléments qui sont essentiels, on parle beaucoup des choses qui sont essentielles en ce moment, il y a des choses qui sont essentielles et il y a des choses qui viennent ornementer, c'est-à-dire mettre en lumière des éléments qui sont essentiels. Voilà.
Et comment on tient plusieurs sujets de conférences futures. Hein, voilà. Là, on pourrait avoir une conférence sur les Goldberg ou sur Bach, enfin, ça, vraiment, ce serait passionnant. On pourrait avoir quelque chose sur l'improvisation, là, qui vient d'être évoqué d'une certaine façon.
Voilà, c'est ça.
La métaphysique aussi, ça m'intéresserait. Et en début, Anne évoquait que peut-être ce serait intéressant d'avoir une conférence sur comment préparer, quand on est musicien amateur, comment, avant d'aller à la répétition, se préparer pour y aller, qu'est-ce qu'il faut regarder en priorité sur la partition, enfin, c'est un peu, je résume à ma manière. Donc, je trouve que, en tout cas, c'était vraiment de nouveau extrêmement passionnant. Est-ce que c'est pas pour avoir le dernier mot? Moi, je peux rester encore, mais je veux pas non plus abuser de votre temps. Est-ce qu'on s'arrête là?
Alors, je propose qu'on prenne quand même quelques minutes pour envisager si vous voulez continuer.
Tout à fait. Peut-être entre nous à Musea, d'accord, pour ceux qui sont concernés par Musea. Et après, on mettra ça en débat dans l'association, je pense, hein, pour voir. Mais je voulais, avant qu'on passe à cette phase-là, je voulais vraiment vous remercier devant tout le monde, hein, parce que c'était passionnant de nouveau et c'est super intéressant de pouvoir échanger comme ça. Ah, et je suggérais que ceux qui, puisqu'on a eu la chance d'accueillir des personnes en dehors de Musea, je vous enverrai, je vous promets, ça va pas forcément être dans les quelques jours à venir, mais les documents à la base de ces séances-là, et non seulement les documents, mais l'audio surtout, vous allez recevoir par mail. Et si jamais il y a un bug dans la transmission, n'hésitez surtout pas à me faire un mail au cours de la semaine prochaine à partir de mardi, mercredi. Hein. Si ce n'est pas arrivé mercredi, ce n'est pas normal. D'accord ? Mercredi prochain. Et puis, par ailleurs, sachez qu'il y a un nouveau site Internet de Musea, enfin, qui est rattaché à Musea, qui s'appelle Musicream, qui va être rendu public le 1er décembre. Donc, il va être sur le World Wide Web, enfin, disponible au monde entier, donc la semaine prochaine. Voilà. Donc, que deux choses. Oui.
Deux petites choses à ajouter. Je viens de mettre dans le chat à droite de votre écran mon compendium d'interprétation de la musique baroque. Donc, vous pouvez déjà le prendre et le récupérer dans votre ordinateur et je l'enverrai de toute façon à John. Faites-en l'usage que vous voulez et gardez en tête que ça n'est pas une vérité définitive et complète, c'est juste le début du commencement d'une réflexion pour des étudiants qui n'ont jamais fait de musique ancienne de leur vie.